Enfin, on peut marcher dans le salon. Les petits-enfants ont ramassé leurs cadeaux. C'est donc la folie Noël. Pas de place pour stationner dans les centres d'achat. La boisson. Défendu de dire joyeux Noël dans les magasins. On a oublié que si on a le droit de célébrer Noël, au moins on doit penser un peu à Jésus. Alors ce matin, je me suis dit, on va parler de l'humanité de Jésus, de son incarnation, du fait que Dieu est devenu homme. Voilà bien des années dans le pays de Perse, qui est aujourd'hui l'Iran, il demeurait un bon roi sage, qui aimait beaucoup son peuple. Il voulait savoir comment ils vivaient. Il voulait connaître leurs difficultés. Puis souvent, il s'habillait dans les vêtements d'un homme ordinaire, d'un ouvrier, même d'un mendiant. Puis il allait visiter incognito les maisons, les foyers de ceux qui étaient très pauvres dans son royaume. Un jour, il a visité un homme très pauvre qui vivait dans un sous-sol, dans une cave. Il mangeait la nourriture un peu gras et peu appétissant que cet homme pauvre mangeait. Il lui laissait des bons mots, des mots gentils, des mots encourageants, puis le quittait. Plus tard, il a visité de nouveau, mais cette fois-ci, il est allé dans ses vêtements. Puis il a dit, « Je suis votre roi. » Puis il s'attendait à ce que l'homme allait lui demander un don, un cadeau, de l'argent, une faveur, une grâce. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Cet homme lui a dit, « Tu as laissé ton palais et ta gloire pour me visiter dans cet endroit difficile, noir, où j'habite. Tu as mangé la nourriture que j'ai mangée. Tu m'as apporté le bonheur de mon cœur. À d'autres, tu as peut-être donné des dons riches, mais à moi, tu t'es donné toi-même. » Chers amis, le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné pour toi et moi. Quel don indescriptible! Alors, ce matin, dans notre étude, je veux regarder avec vous quatre passages. Nous allons regarder ces quatre passages-là pour voir différents aspects de cette doctrine de l'humanité de Jésus-Christ. On va commencer avec Jean 1, 14, où on dit que la parole est devenue chair. On va continuer avec Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, où nous allons voir que Jésus a la nature de Dieu, puis en même temps la nature d'un esclave. Ensuite, on va aller dans Hébreux chapitre 1er, puis le verset 5, où nous allons voir que ces deux unions, ces deux natures, la nature divine et la nature humaine de Jésus, sont unies dans une union hypostatique. On va voir ce mot-là, on va l'expliquer. Puis enfin, dans Philippiens chapitre 3, le verset 21, nous allons voir que Jésus, aujourd'hui, est encore un homme. Commençons dans Jean 1, 14. Il est la parole devenue chair. Lisons ce verset. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Regardons les mots. D'abord, ça commence avec le mot « la parole ». La parole. Cela fait référence au Fils éternel de Dieu. L'apôtre Jean ici prend un mot très intéressant. Dans l'Ancien Testament, l'expression « la parole de Dieu » revenait souvent. L'idée, c'était que Dieu s'est révélé par des écrits. En nous donnant l'Ancien Testament, en nous donnant la Bible, en nous donnant la vérité, la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, que Dieu se révèle dans sa parole écrite. Mais Jean écrit non seulement à une communauté hébreu, juive, mais aussi à une communauté grecque. Et chez les Grecs, le mot « parole » était utilisé par leurs philosophes pour décrire le concept d'un Dieu qui est accessible dans un certain sens. Alors, Jean réunit ici ces deux cultures grecques et hébreux, puis prend ce mot commun, puis il prend ce mot-là pour décrire Jésus. Et il ne nous laisse pas en interrogation sur c'est qui cette parole-là. Parce qu'au verset 3, nous lisons ceci, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Il dit au fond, « Au commencement, la parole. » Jean 1:1, « Au commencement, la parole. » Parce qu'il fut toujours Dieu. Je suis rendu sur le deuxième point. Merci beaucoup. Cet mot « au commencement », dans le grec, c'est un mot que vous connaissez. En arché, au commencement. Arché, quel mot que vous connaissez en français qui vient de arché? Archéologie, l'étude des choses anciennes, n'est-ce pas? Ça vient du mot début, au début. Puis c'est très intéressant que Jean ici fait quelque chose qui était certainement compris par les Hébreux en tout cas. Parce que Genèse chapitre 1er, verset 1er, commence comment? Comment que la Bible commence? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et même si c'est vrai que la Bible, l'Ancien Testament, a été écrit en hébreu, c'est intéressant que vers 200 ans avant Jésus-Christ, un peu cette époque-là, les Hébreux qui vivaient surtout en Égypte, dans une culture qui était en Alexandrie, très très grecque, ont traduit l'Ancien Testament en grec, la version qu'on appelle le Septante. Et lorsqu'ils ont traduit Genèse chapitre 1er en grec, ils ont pris « en arché ». Alors, chez les Juifs du temps de Jean, on connaissait cette expression-là, on lisait la Bible en grec, c'est évident. Alors, ils connaissaient que quand Jean dit « au commencement était la parole », puis après, ensuite, il dit « toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui était fait n'a pas été fait sans elle », certainement, la pensée de ces Juifs-là retournait dans l'Ancien Testament. « En arché, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, ce qu'on disait de Dieu le Père, du seul Dieu dans l'Ancien Testament, on dit de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, c'est clair ici que Jésus est Dieu. Il est coégal avec le Père et le Saint-Esprit. Il est esprit. Il n'avait aucune substance matérielle, même si les Mormons nous visitent dans nos maisons et venus convaincre que Dieu a un corps comme nous. Ce n'est pas vrai. Dieu est immatériel. Il n'est pas limité à un corps comme nous le sommes. Puis il a vécu pendant toute l'éternité en parfaite harmonie, en communion avec son Père et avec le Saint-Esprit, les trois membres de la Trinité qui étaient en parfaite humanité. Le passage nous dit, était avec Dieu. La parole était Dieu. Avec Dieu, on a suggéré que ça, on peut le traduire comme ceci, face à face avec Dieu. On voit le Fils puis le Père en éternel, constant, communion bénie. Parole avec Dieu. On continue dans ce passage avec un autre mot, puis on dit « il est devenu ». Il est devenu. Et, chers amis, il n'a pas cessé d'être égal avec Dieu. Et il n'a pas abandonné sa nature divine. Il a ajouté sa nature humaine à sa nature divine. Je vais sortir un peu ma formation comptable, puis je vais vous dire, ce n'est pas ici une soustraction, mais c'est une addition. Jésus a ajouté sa nature divine, une nature humaine à sa nature divine. La divinité et l'humanité n'étaient pas mutuellement exclusives. Il n'avait pas besoin de choisir entre les deux. La parole éternelle est devenue homme. Puis après cela, on voit ce mot dans Jean 1,14, ce mot chair. La parole est devenue chair. Puis ce mot chair ici, dans la Bible, le mot chair a différents sens. Des fois, ça parle de cette chair-là. Hein? Certains de nous ont trop de chair à certains endroits. Ça ne parle pas de cette chair-là. Paul y voit dire, lorsqu'il a rencontré Dieu, qu'il n'a pas consulté la chair puis le sang, mais il est allé dans dans l'Arabie, passer quelques années seul avec Dieu, recevoir des révélations de Dieu. Et chair et sang, là, c'est sûr que ça veut dire un être humain, n'est-ce pas? C'est une façon de dire un homme, un être humain. Alors, le mot chair ici ne fait pas seulement référence au corps humain, mais de tout ça qui fait partie de l'humanité, corps, pensée, émotion, volonté, il est devenu un homme. Tout ce qui est uni à l'humanité est uni au Fils de Dieu. Le Fils éternel de Dieu n'est pas devenu comme un homme. Il est devenu un vrai homme. Un vrai homme. Hébreux 2, 17 nous le dit comme ceci. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. En toutes choses. Puis on peut se permettre la question, ben pourquoi? Pourquoi que le Dieu infini, qui vivait sans limite, a pris un corps? Pourquoi qu'il est devenu un homme? Puis le verset nous dit, plein de grâce et de vérité. Un de mes pères de l'Église préférés, c'est Athanasius, qui a vécu au début du 4e siècle. En tout cas, entre 2,96 et 3,73. On dit dans l'histoire de l'Église ceci, on dit Athanasius contre monde. Contre le monde. Parce qu'il vivait dans une époque d'hérésie. Il vivait dans l'époque de l'hérésie arienne qui disait que Jésus était un être créé. Puis malheureusement, cette hérésie existe encore aujourd'hui. Puis est enseignée par nos amis chez ceux qui visitent dans nos maisons, souvent deux par deux, vous les connaissez, que Jésus a été créé. Puis, parmi les évêques, parmi les leaders dans l'Église au début des années 300, parmi ceux, un des seuls qui s'est tenu debout, puis avec beaucoup de force, c'était cet homme, Athanasius, que je peux prononcer, mais aujourd'hui je ne peux pas, Athanasius. Même l'empereur Constantin croyait que Jésus était un être créé. Puis il utilisait au conseil de Nicée ses pouvoirs considérables politiques pour gagner cette grande discussion-là. Puis Athanasius a été mis en prison, il a été mis en exil, mais il a toujours défendu que Jésus n'était pas un être créé, la divinité de Jésus absolue. Puis il a protégé, puis c'est intéressant, le peuple dans l'Église croyait la vérité, c'était les leaders qui croyaient l'hérésie. Ce n'est pas juste dans 300 ça, c'est aussi aujourd'hui malheureusement souvent. Mais même si cet homme-là a défendu avec toute ferveur, avec tout son être, puis à grand prix, la vérité que Jésus n'était pas un être créé, mais qui était Dieu, qui existait depuis l'éternité, il croyait aussi que Jésus était un homme. Puis il a dit ceci, il est devenu un homme pour nous et pour notre salut. Et c'est ça la raison. Puis ce matin, j'espère que nous apprécions Jésus, que nous apprécions le fait qu'il est devenu un homme pour nous. La parole est devenue chair pour nous sauver de notre péché et nous libérer pour que nous puissions nous émerveiller de cette union unique entre la divinité et l'humanité. Il a fait cela pour nous. J'espère que ça vous réchauffe le cœur. Notre deuxième passage, nous allons le lire, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Christ Jésus, existant en forme de Dieu, ne point regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Regardons les mots dans ce passage. D'abord le mot « existant en forme de Dieu ». Dans la langue grecque, il y a différents mots puis, qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour forme. Forme. Ici, le mot forme, c'est morphé. Vous connaissez ce mot-là. Lorsqu'une chenille devient papillon, merci, on appelle ça une métamorphose. En anglais, les jeunes disent souvent morph. on n'utilisait pas ce mot-là quand j'étais jeune, mais morph. Et puis je l'ai entendu en français des fois, c'est probablement un anglicisme. Form. Puis ce mot morphé signifie une forme essentielle. Ce n'est pas quelque chose de surface, c'est ce que nous sommes intrinsèquement. Il y a un autre mot qui même est utilisé dans le passage ici pour forme, c'est le mot schéma, qui signifie l'apparence extérieure. Puis ce mot-là aussi, vous le connaissez, schématique, n'est-ce pas? Vous l'utilisez ce mot-là des fois. Alors, ça c'est forme extérieure, apparence. Tandis que Morphée parle de ce qui est essentiel. Alors, attribut, essentiel, intrinsèque. Alors, Jésus existait dans la forme de Dieu, dans sa forme intrinsèque, de ce qu'il était essentiellement, il était Dieu. Tout ce que le Père, que Dieu le Père est, Christ l'est aussi. Le passage continue, puis il dit, prenons une forme de serviteur. Et c'est intéressant ici, je pense que si j'avais été l'auteur du Nouveau Testament, j'aurais pris le mot « schéma » ici. Le Saint-Esprit a pris le même mot. Si c'est vrai que Christ a existé dans la forme de Dieu, il était Dieu intrinsèquement, le passage nous enseigne ici qu'il existait intrinsèquement comme un serviteur. Puis le mot « serviteur » ici, encore une fois, il y a beaucoup de mots différents pour « serviteur » dans le Nouveau Testament. Et le mot ici, c'est le plus bas des mots, c'est le mot esclave. John MacArthur vient de sortir un livre que je trouve très important. Et j'étais dans une réunion où est-ce qu'on discutait du titre qu'on va donner à ce livre-là l'année passée, lorsqu'il avait terminé de l'écrire, puis on était en train de le rédiger, puis il dit, je cherche un titre. Puis quelqu'un dans la réunion a dit, c'est simple, slave, esclave. Alors, ce livre-là vient de sortir... En anglais, j'espère qu'il va sortir en français un jour, c'est important. Il me semble que dans notre Nouveau Testament, on a caché, par politesse et par désir d'avoir un texte facile à lire et tout cela, la vérité est que souvent le mot qui est utilisé n'est pas le mot serviteur, employé, c'est le mot esclave, avec tout ce que ça veut dire. Puis Jésus ici est devenu intrinsèquement, essentiellement un esclave, ce passage nous enseigne. Et j'aimerais vous suggérer que ce mot esclave est la preuve même de son humanité, la plus basse forme d'humanité. Il est devenu esclave. Et c'est pour nous. Le passage continue, puis il dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dévêti. Lui-même est emphatique dans le grec. Le français, là, c'est une langue où est-ce qu'on met les mots dans un ordre spécifique. Vous savez que si vous parlez l'anglais, on met l'adjectif avant le nom, puis en français, on met l'adjectif après le nom, n'est-ce pas? En anglais, on dit « the green cow », puis en français, on dit « la vache vert ». Oui, vous allez me dire que la vache, c'est pas en vert, mais vous avez compris. Mais en grec, on peut mêler un peu l'ordre des mots, puis on met les mots très importants dans une phrase au début de la phrase. Puis ici, lui-même est au début de la phrase, c'est emphatique. Il a fait de lui-même. Volontaire, volontaire. Et de quoi qu'il s'est dépouillé? Pas de sa nature divine, ça aurait été impossible. Mais il s'est dépouillé des signes de sa majesté. Et j'aimerais vous suggérer 5 choses dont Jésus-Christ s'est dépouillé, s'est vidé, s'est dévêti volontairement, temporairement aussi. D'abord de sa gloire divine. Par définition, Dieu est glorieux. Regarde dans l'Ancien Testament, vous voyez Ésaïe qui voit le Seigneur élevé dans le temple, puis il est glorieux. Sa robe le remplit, celle de temple, ça parle de sa majesté. Il habite une lumière inaccessible, nous dit le Nouveau Testament. Moïse voulait voir Dieu, puis Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma gloire puis vivre. Il est glorieux. Quand Dieu, sa présence est entrée dans le tabernacle et plus tard dans le temple, c'était manifesté par une lumière qui brillait. Les enfants d'Israël étaient conduits dans le désert par un pilier de feu, une lumière. Dieu est glorieux. Il est glorieux. Puis Jésus était toujours glorieux. Puis sur la terre, on voit un bébé, on voit un être humain, il n'est pas glorieux. Il ne resplendit pas. Malgré que les images qu'on voit avec une auréole, là, Jésus, comme homme, n'a pas manifesté sa gloire. Lors de la transfiguration, c'est comme si on tirait un peu sur le voile pour qu'on voit sa gloire. Jean va dire, nous avons contemplé sa gloire. Il a vu sa gloire un peu. Deuxièmement, il s'est dépouillé de l'exercice indépendant de son autorité divine. Toujours Jésus avait une autorité absolue. Il a parlé par sa parole, l'univers a été créé. J'aime la science. On peut bien étudier comment les étoiles, puis les constellations, puis les galaxies, comment l'univers est venu à exister. Ça m'intéresse énormément. Je lis beaucoup sur ces sujets-là. Mais quand on a tout étudié, puis quand on a tout dit, Dieu a parlé, Jésus a parlé. Par sa seule parole, l'univers a existé. Il disait un mot, puis des saints anges allaient accomplir sa volonté. Il a volontairement laissé à côté l'exercice de certains de ses attributs divins. Il a laissé à côté son autorité divine, puis les attributs divins. C'est cette verset que les témoins de Jéhovah aiment tellement. Quand Jésus va dire, même le Fils de Dieu ne sait pas l'heure de son retour. Preuve que Jésus n'est pas Dieu, parce que Dieu sait tout. Non. Jésus qui, depuis l'éternité, la deuxième personne de la Trinité, est omniscient. Il sait tout. Mais quand il est devenu un homme, il a volontairement, temporairement, laissé à côté l'exercice de certains de ses pouvoirs. Ses richesses éternelles. Est-ce qu'on peut imaginer combien que Dieu est riche? À toutes les années, on découvre de nouvelles étoiles, puis on découvre que l'univers est plus grand qu'on pensait. L'étoile, le télescope Hubble vient d'être renouvelé encore une fois. Puis, il va encore plus loin. Puis, est-ce qu'il existe d'autres univers qu'on ne connaît pas? Des fois, je pense que oui. Mais, chers amis, tout ça a été créé par Jésus et pour Jésus. C'est tout à lui. Moi, on a dit dans l'Ancien Testament, les Juifs pensaient qu'il faisait bien d'amener des offrandes. Puis, Dieu dit, les animaux sur toutes les montagnes sont à moi. Toutes les richesses de ce monde appartiennent à Dieu. Ils nous sont prêtés un peu de temps. Toutes les richesses dans l'univers sont à lui. Tout est pour lui et par lui. Il était riche. Et il est devenu pauvre pour nous. Il a dit, les renards dans les tanières, les oiseaux du ciel dans leur nid, le Fils de l'homme n'a même pas d'endroit pour coucher sa tête. Quand les Romains faisaient une crucifixion, le salaire des soldats qui faisaient ce job infâme, ce travail infâme, c'était qu'ils pouvaient saisir et garder pour eux comme salaire les biens, les richesses de l'homme qui est crucifié. Puis quand Jésus fut crucifié, tout ce qu'ils ont pu partager, c'était le vêtement qu'il portait sur son dos. Il est devenu pauvre. Pauvre pour nous. Il a laissé à côté ses richesses. Puis il a laissé à côté encore plus que tout cela, sa relation unique, intime et face à face avec son Père éternel, son Père céleste. Vous savez que je suis marié depuis plus de 40 ans. Je suis en communion avec ma femme. Je suis papa, mon fils a 35 ans, mon garde, ma fille a 28. Je vais dire 27, mais je pense que c'est 28. Il ne faut jamais se tromper vers le haut avec une femme. Je les connais bien. Je suis chanceux, j'ai une famille où nous sommes proches. Mais des fois le péché, et des fois les insultes, mais des fois les circonstances de la vie font en sorte que cette communion-là est atténuée. Pour un certain moment, il y a tristesse, mais des fois on est au loin. On s'appelle par Skype, mais ce n'est pas la même chose que d'être là. Mais imaginez-vous, puis ça fait 40 ans, c'est long 40 ans, mais pendant l'éternité, pour une période de temps qui est tellement longue que le temps n'existait pas, des années qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas imaginer. Le Père et le Fils, Jean 1 le dit, le Fils était avec Dieu. Face à face avec Dieu, pros theos, avec Dieu. Communion parfaite, jamais interrompue par une demi-seconde, des millièmes d'une seconde, que cette communion-là était moins que parfaite. Augustin a écrit longuement sur l'amour qui a lié le Père et le Fils ensemble. Et le Fils est devenu un homme qui était séparé de son Père sur la croix. Il a abandonné cette proche, unique, intime communion avec son Père. Il s'est dépouillé. Le passage continue, puis ça dit devenant semblable aux hommes. C'est ici qu'on voit le mot schéma. Il était un vrai homme. Sa mère l'emmaillotait dans des langues. Il a grandi, cette version Luc nous dit qu'il a grandi en stature, puis sa personnalité, puis oui. Le Fils éternel, infini, tout connaissant, tout puissant, Dieu a grandi. Il avait des frères et des sœurs, il faisait partie d'une famille comme nous. Il a pris un métier de son père, Joseph, le Dieu infini, tout connaissant, qui a fait l'univers, a appris à manier une scie et un marteau de son père. Il expérimentait la faim, la soif, la fatigue, le manque de sommeil, fatigue. Il eut de la peine, puis il était en colère, il a pleuré. Il s'est habillé comme des hommes ordinaires. Il a vécu comme des hommes ordinaires. Il a suivi les coutumes des hommes ordinaires. J'ai lu ceci. Jésus sait qu'est-ce que ça veut dire de souffrir. Vous souffrez? Jésus sait qu'est-ce que c'est de souffrir. Jésus sait qu'est-ce que c'est d'être rejeté puis que les gens ne remarquent pas. Jésus sait qu'est-ce que c'est d'être traité avec toutes sortes de noms. Jésus sait qu'est-ce que c'est de vivre la moquerie, puis quand on rit de nous. Jésus sait qu'est-ce que c'est de voir des personnes qu'on aime, des membres de notre famille qui ne croient pas. Il sait qu'est-ce que c'est d'être debout dans un service de funérailles, au cercueil, au tombe de quelqu'un qu'on aime. Il a vécu cela. Jésus, il sait qu'est-ce que c'est de travailler fort, puis de travailler dur avec ses mains. Il sait qu'est-ce que c'est d'être déçu par les amis proches. Il sait qu'est-ce que c'est d'être seul, d'être abandonné par ses meilleurs amis. Puis il sait c'est quoi la séparation. Même s'il n'avait jamais péché lui-même, il a expérimenté la séparation. Il était un homme comme nous. Puis je continue ici, puis je dis, il est mort. Il est mort. Il est mort sur la croix. Une telle mort était honteuse, une telle mort était humiliante, une telle mort était douloureuse. Et encore une fois, c'est pour nous. Jean 1, 4, 1 Jean 4 nous dit ça comme ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Paul le dit comme ceci, en Timothée 3, « Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui, Dieu, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Le troisième passage, Hébreux 1, 5. Nous allons le lire. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ce mot, sa personne, quel est-il? Sa personne. En grec, c'est le mot « hypostatis », puis ça nous a donné ce concept théologique, l'union hypostatique. Personne. L'union hypostatique, même si c'est un grand mot, c'est pas compliqué, se dit simplement que l'union du divin et de l'humain en la seule personne de Jésus, c'est ça. L'union du divin et de l'humain en la seule personne de Jésus. L'union personnelle des deux natures de Jésus. Les deux natures de Jésus sont parfaitement unies en une seule personne. À travers les années, dans l'histoire de l'Église, il y a eu toutes sortes d'hérésies là-dessus, qui existent encore aujourd'hui. Les docétistes croyaient que Jésus avait l'air d'être humain, mais il était vraiment seulement divin. C'était seulement une espèce de fantôme, son corps. Les ébionites au IIe siècle enseignaient que Jésus n'était pas préexistant, puis il a reçu le Saint-Esprit seulement après son baptême. Les ariennes, ceux contre lesquels notre ami Athanasius avait combattu, croyaient que le Père a engendré le Fils, puis il était la première personne que, Jésus, que Dieu a créée. Les monarchianisme disaient que Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, les trois sont un, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste à différents moments comme Père ou comme Saint-Esprit ou comme Christ. Et ça existe encore aujourd'hui chez les pentecôtistes unis, cette doctrine-là. Et chez les Branham, on enseigne quelque chose de semblable aussi. Et c'est une grande hérésie. Puis on a juste à penser à le baptême de Jésus. Nous avons le Père qui est au ciel, qui parle, puis Jésus qui est dans l'eau, puis le Saint-Esprit qui est en forme de colombe pour voir que ce n'est pas vrai que Dieu se manifeste une à la fois comme Christ ou comme Père ou comme Saint-Esprit. Mais non, ce n'est pas vrai. Puis les gnostiques croyaient que Jésus n'était qu'une émanation de Dieu. Puis, bon, je pourrais continuer longtemps, je ne le ferai pas, mais il y a toutes sortes d'hérésies. Regardons la vérité. Voici quelques citations qui m'ont aidé dans cela. D'abord, le credo chalcédonien, quelques 130 ans après le conseil de Nicée, on s'est réunis pour parler de cette question-là. Puis on a dit ceci. Moi, je me souviens que dans mes cours de théologie, qu'il y avait un examen, puis je ne suis pas aussi intelligent que d'autres élèves, mais j'avais le don de discerner qu'est-ce qu'il va y avoir sur l'examen. Puis je me souviens que le prof avait mis beaucoup d'emphase là-dessus, puis je l'ai pris par cœur. Puis effectivement, sur l'examen, il y avait une question de 10 points, de citer la déclaration de credo de chalcédonienne, mais j'ai eu 10 points sur cette question-là. On ne parlera pas des autres questions. Là. Oh, que ça vaut la peine de le lire. Ces deux natures sont sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. L'humanité et la divinité de Jésus sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Jonathan Edwards, grand théologien, grand évangéliste, grand réveil, un homme de réveil, tout dans le même homme, une théologienne, meilleure théologienne en Amérique. Avant lui, de son temps, puis depuis son temps, il n'y a jamais eu un meilleur théologien que Jonathan Edwards, puis c'était l'homme qui a fait plus pour faire un réveil aux États-Unis, dans la Nouvelle-Angleterre, extraordinaire. Il prêchait, puis des villes entières se mettaient genoux, puis se repentaient de leurs péchés. C'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait pour cet homme-là. Il a dit ceci, en cette seule personne, Jésus-Christ, le Dieu-homme, nous trouvons une admirable conjonction de diverses excellences. L'union hypostatique, regardez bien 1 Corinthiens 2, 8, s'il vous plaît. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Regardez bien. Celui dont ils ont mis le corps sur la croix, celui dont ils ont percé les mains avec des clous, celui qu'ils ont crucifié, puis l'ont battu, puis ont mis couronne sur la tête, c'était le Seigneur du gloire. Une personne unie, deux natures, une seule personne. Jésus est une seule personne. Laissons la théologie un peu, puis essayons d'appliquer ça à nos cœurs. J'ai écrit ceci. Le résultat de tout cela et que Jésus est le centre de notre adoration. À cause de cette union hypostatique en une seule personne, Jésus-Christ resplendit dans une excellence sans pareil. Aucune autre personne satisfait les soupirs, les profonds soupirs du cœur humain comme l'homme Dieu. Dieu a créé le cœur de l'homme de telle sorte qu'il ne pourra jamais être éternellement satisfait par ce qui est simplement humain. Ce qui n'est pas infini ne pourrait jamais satisfaire notre soif pour l'infini. Cette correspondance avec ce qui est divin nous aide considérablement dans notre humanité si limitée. Dieu a toujours été glorieux, bien avant qu'il devienne un homme en Jésus-Christ. Mais nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas nous identifier de la même façon avec une divinité non incarnée qu'avec Dieu qui est devenu homme. Le concept d'un Dieu qui n'est jamais devenu homme, comme Allah, ne pourra jamais satisfaire le cœur humain comme Dieu l'a fait. Nous pouvons avoir le cœur épanoui parce que Dieu est devenu un homme. Et encore plus que simplement contempler la personne spectaculaire qui est Jésus, que Jésus est, on retrouve aussi la révélation, partie intégrale de l'Évangile, que Jésus est devenu l'homme Dieu pour nous. Sa nature complètement humaine, attachée parfaitement à sa nature éternellement divine, est la preuve parfaite que Jésus, en parfaite harmonie avec son Père, est pour nous, via jamais. Il a démontré son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a pris notre nature et il est mort pour nous. Rapidement, nous allons regarder Philippiens 3, 21. Il est encore un homme. Philippiens 3, 21 nous dit ceci. Qui, en parlant dans le contexte du Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Remarquez bien qu'à l'avenir, Jésus-Christ va transformer nos corps, puis pour certains de nous, nos corps sont maganés un peu. Ils ont besoin d'être transformés, n'est-ce pas? Puis voilà le rendre semblable au corps de sa gloire. En ce moment, Jésus a encore un corps. Au ciel, il est encore un homme. Beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est devenu un homme, mais lorsqu'il est monté aux cieux, qu'il a cessé d'être un homme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça. Dieu, Jésus est encore un homme. J'ai pensé citer quelques-unes des pères de l'Église pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, cela. Justin Martyr, dans l'année, il est mort, je mets ici les dates des morts de ces pères de l'Église, il est mort en 168 environ. Il a dit, après sa résurrection, Jésus est monté dans la même chair dans laquelle il avait souffert. Transformé, la même chair. Tertullien, qui est mort en 225, a dit ceci, Jésus est encore assis là, à la droite du Père, homme mais Dieu, chair et sang, mais plus pur que les nôtres. Saint Augustin, qui est mort en 430, dit ceci, « Ce grand miracle qui procure la santé, l'ascension du Christ en la chair dans laquelle il est ressuscité. » Plus récemment, John Knox, un autre réformé, que c'est mon homme, c'est mon réformé préféré, John Knox, écossais, qui a donné sa vie pour son Seigneur, il a dit ceci, « Jésus est retourné au ciel dans exactement le même corps. » Karl Barth, que je cite pas souvent, puis je suis très souvent pas d'accord, mais cette fois-ci, il a raison. Il a dit, l'humanité de Christ est pour toute l'éternité un vêtement dont il ne se dévêtit pas. Il est son temple qu'il ne quitte jamais. C'est la forme, la morphée qu'il ne perd pas. Il est toujours l'image du Dieu invisible. En conclusion, quatre vérités qui peuvent nous aider dans l'année 2011. D'abord, à cause de son humanité, il est notre parfait médiateur. Dernièrement, j'ai signé un contrat de traduction pour avoir les droits d'éditer, traduire en français un livre anglophone. Puis l'organisation américaine chrétienne a mis maintenant dans le contrat une phrase intéressante. Ça dit ceci: si jamais il y a une dispute concernant l'interprétation de ce contrat, nous n'irons pas dans un procès légal. Plutôt, chacune des deux parties va établir, va désigner une personne de son côté. Et les deux ensemble vont se mettre d'accord sur une troisième personne, puis ces trois personnes vont médier la différence. J'ai trouvé ça beau, intéressant. J'espère ne pas avoir recours à cela. Mais c'est ça, un médiateur. Un médiateur doit comprendre les deux côtés. Vous êtes d'accord? Je dois comprendre son idée à lui, puis son idée à elle, puis les mettre ensemble. Jésus est notre parfait médiateur, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dieu, homme, il peut être notre médiateur. Oh, je ne veux pas parler en mal des autres. Mais l'idée qu'il y ait d'autres médiateurs entre nous et Dieu, l'idée qu'on doit craindre d'aller directement vers Jésus, il est notre médiateur. Et le passage nous dit qu'il est notre seul médiateur, parce qu'il est le seul qui est Dieu et qui est homme. Parfaitement qualifié pour ce travail-là. C'est une des raisons qu'il est devenu un homme. Oh, chers amis, nous avons quelqu'un qui est médiateur entre nous et Dieu le Père. Deuxièmement, à cause de son humanité, il a conquis la mort pour nous. On a entendu parler que Camille a perdu son frère. La mort. On craint tous la mort un peu. Hébreux 2, 14 nous dit ceci: ainsi donc, puisque les enfants, ça c'est nous ça, participent au sang et à la chair, l'humanité, il, Jésus, y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissante celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous ne craignons plus la mort. Christ est mort. Il est devenu un homme pour qu'il puisse mourir, vaincre la mort, vaincre le diable qui avait les puissances de la mort, pour que nous ne craignions plus la mort. La mort, c'est le dernier ennemi. À cause de son humanité, il peut intercéder pour nous au ciel. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Écoute bien là. Êtes-vous tenté par le péché des fois? Là, je vous donne la permission. Là. Si vous n'êtes pas tenté par le péché, allez-vous-en, je n'ai plus rien à vous dire. Est-ce que vous réalisez, quand vous êtes tenté par le péché, que Jésus-Christ a été tenté lui aussi par le péché? Je ne suis pas sûr qu'il a connu les profondeurs de la débauche, tentation de débauche qu'on peut connaître, nous. Mais il n'y a pas un péché par lequel il n'a pas été tenté. Notre Dieu saint et pur est devenu un homme, puis il a été tenté. Puis les tentations étaient réelles. Il n'a jamais péché, il ne pouvait pas pécher, il était Dieu, mais ses tentations étaient réelles. Puis il peut nous aider à vaincre la tentation, il nous comprend. Quand vous êtes tenté, puis vous dites, mais il ne me comprend pas, Dieu. Oui, il vous comprend. Jésus vous comprend. Il est devenu un homme pour qu'il puisse vous comprendre puis vous secourir. Puis enfin, à cause de son humanité, il peut intercéder pour nous au ciel. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse, à nos faiblesses. Au contraire, il était tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Bon, je suis mêlé. Dernier point. À cause de son humanité, il peut pardonner nos péchés. Avez-vous une conscience troublée par le péché? Moi, oui. Je dis, Seigneur, pourquoi je commets encore les mêmes péchés? J'ai 63 ans, ça fait tant d'années que je te suis. Puis je suis encore pris dans les mêmes péchés parfois. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Dans l'économie de Dieu, dans les décrets de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans les valeurs de Dieu, il fallait que le sacrifice pour nos péchés soit un homme. Les brebis, ça ne marchait pas. Les oiseaux, les bœufs, ça ne marchait pas. Oh, c'était là, par exemple, pour couvrir un peu les péchés, dit l'Ancien Testament. Mais Dieu a décidé qu'un homme parfait, un homme sans péché, devait mourir pour les péchés de l'humanité. Puis Christ est mort pour nous, puis il est un souverain sacrificateur qualifié. Il peut pardonner nos péchés. C.S. Lewis a écrit ceci. Couchez à vos pieds, il y a peut-être un chien. Imaginez pour un moment que votre chien et que tous les chiens dans le monde sont dans une détresse terrible. Certaines personnes aiment beaucoup les chiens. Si ça pouvait aider tous les chiens dans le monde de devenir comme des hommes, seriez-vous prêt de devenir un chien? Est-ce que vous voudriez y laisser votre nature humaine, vos bien-aimés, votre travail, vos hobbies, votre art, votre littérature, votre musique, et de choisir à place de devenir un chien, de connaître un petit peu une communion avec votre maître sans pouvoir lui parler? Tu peux promener le cul un peu, tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas parler. Christ, en devenant homme, a limité ce qui était le plus précieux pour lui dans tout son univers, son communion, sans obstacle, avec son Père. Jésus est devenu humain. Jésus est devenu homme pour moi et pour toi. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce que vous allez le servir en 2011? Prions. Seigneur, c'est par nous avec ta bénédiction. Ah, merci pour Jésus. Nous ne comprenons pas comment tu est devenu homme, comment la nature divine, puis la nature divine et la nature humaine ont pu habiter dans une même personne. Ça nous dépasse, Seigneur. C'est au-delà de notre entendement. Et nous l'acceptons parce que ta parole l'enseigne. Et nous te rendons grâce parce que par cet geste-là, par cet acte-là, Jésus est devenu notre sauveur, puis notre souverain sacrificateur. Notre médiateur, notre intercesseur, il est aussi devenu notre maître. Aide-nous à l'aimer davantage, aide-nous à nous donner vraiment lui et de vivre pour lui. Nous demandons au nom de Jésus.